impressionnant.
Alors, je suis Floriane Prévost, je suis guide à la manufacture depuis 2019. Et on présente des visites guidées tous les après-midi, donc une à 14h30 et une à 16h, du mardi au dimanche, avec aussi la possibilité de réserver un créneau si vous êtes un groupe de plus de 10 personnes. Donc, on fait également les scolaires, les associations, enfin, on reçoit tout type de public ici à la manufacture.
Donc ce lieu existe depuis longtemps, il a une origine très ancienne.
Alors en l'état actuel, il existe depuis 2009, c'est-à-dire en tant que musée indépendant, sachant que l'entreprise qui habitait ces murs avant la transformation en musée accueillait déjà du public. C'est-à-dire qu'en 2001, le directeur de l'entreprise, qui s'appelait donc à l'époque Flemish Tapestry, avait déjà décidé d'accueillir des visiteurs lors de la production, c'est-à-dire que les ouvriers étaient au travail. Et donc, c'était une manière aussi de montrer un peu justement comment les ouvriers travaillaient déjà à l'usine. Et en 2006, ils ont été délocalisés, alors pas très loin. Ils sont retournés en fait en Belgique, sur les terres natales du créateur de l'entreprise. Et la ville de Roubaix a décidé de racheter la manufacture, enfin le bâtiment, le matériel en 2009. De manière à pouvoir vraiment avoir un lieu consacré à l'histoire du textile roubaixienne ici.
Donc le musée va devenir municipal, enfin très vite. Hein.
Oui, effectivement, jusqu'ici on était donc sous forme d'association gérée par l'Office de tourisme de Roubaix. Et à partir du 1er septembre, on sera municipalisé, c'est-à-dire que vraiment sous la régie complète de la mairie de Roubaix au niveau des ressources humaines, de l'entretien, etc.
Tout le monde connaît Roubaix, Tourcoing, Lille pour ses manufactures. Donc c'est une industrie qui remonte à quelle époque ?
Alors, quand on parle d'industrie, effectivement, c'est à partir des années 1830 environ, à l'arrivée des machines à vapeur. Donc les nouvelles technologies ont permis l'industrialisation de l'activité textile, sachant qu'il y avait déjà une activité textile depuis le Moyen-Âge à Roubaix. On a commencé à tisser vers le 11e siècle. C'était une activité comme on pouvait en trouver partout en France, hein, c'est-à-dire que les gens tissaient principalement pour leur consommation personnelle, pour les vêtements de la famille ou alors pour les sacs des travaux agricoles, parce qu'à la base, à Roubaix, on était principalement sur des métiers agricoles. Et à partir de 1469, avec la signature de ce qu'on appelle la charte des drapiers, c'est à partir de ce moment-là que les Roubaisiens vont pouvoir vendre leur production. On dit qu'ils peuvent faire drap de toute laine, c'est-à-dire qu'ils ont le marché est ouvert. Un marché qui était à l'origine réservé plutôt à des villes comme Lille ou Tournai, qui avait un peu le monopole. Et à partir de la signature de la charte des drapiers, le commerce commence ici à Roubaix.
Donc on entend des bruits là, signe que l'activité va être intense très prochainement.
Oui, alors effectivement, cette semaine, on est fermé parce qu'on fait beaucoup de régies, de l'intendance, des réparations. On en profite justement pour remettre un petit coup de propre au musée pour la réouverture à partir de mardi prochain. Donc pour accueillir le public dans de très bonnes conditions.
Comment on pourrait présenter ce musée, ses spécificités ?
Alors c'est un double objectif, c'est à la fois de parler de l'histoire ancienne, c'est-à-dire de rendre hommage aux ouvriers et aux ouvrières qui ont fait la richesse de la ville de Roubaix et de la région du Nord plus particulièrement, et aussi de mettre en avant les artistes contemporains. C'est aussi un de nos objectifs, c'est de mettre en avant les artistes au travers d'expositions temporaires sur la création textile. Donc ça peut très bien être dans la mode, l'art abstrait, enfin, on développe un petit peu justement toutes les branches de l'activité textile contemporaine pour montrer que le textile, ce n'est pas qu'une affaire de passé, c'est aussi une activité qui est très concrète, qui est tournée vers l'avenir. Et on va aussi mettre en avant les entreprises du textile qui sont présentes dans le Nord, au travers d'une partie de notre exposition qui est réservée justement à la mise en valeur de produits textiles actuels. Pour montrer que là aussi que le textile dans le Nord n'est pas complètement fini. Il y a aussi des entreprises, il y a des activités. On a environ 400 entreprises textiles dans le Nord qui sont évidemment sur divers produits. Maintenant, on va plutôt développer des produits de niche, hein, des textiles utilisés dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le médical. Et ça montre que le domaine du textile est encore très actif dans le Nord de manière générale.
Donc la ville de Roubaix a fait un pari à un moment donné de l'art dans la ville. Donc ce lieu sera un des lieux qui va accueillir des auteurs, des artistes contemporains ?
Alors oui, c'est déjà le cas au travers de nos expositions temporaires. En revanche, maintenant qu'on va être municipalisé, il y aura un travail beaucoup plus étroit avec le musée de la piscine, ce qui va permettre de mutualiser justement les compétences, les réseaux, etc. Et on espère justement que la manufacture s'inscrive véritablement dans un lieu incontournable à Roubaix. Alors c'est déjà le cas parce qu'on a quand même pas mal de visiteurs, mais on a une marge de progression au niveau de la notoriété du musée. Et justement, cette municipalisation, ça va vraiment être l'opportunité pour nous de rayonner davantage au même titre que la ville ou que le musée de la piscine. Donc c'est une véritable opportunité pour nous.
Donc j'imagine que vous allez accueillir des artistes contemporains de tout état de réflexion, d'analyse sur peut-être la société aussi. Est-ce que certains de ces artistes s'intéressent au textile, par exemple ?
Oui, alors je vous dis, à travers nos expositions temporaires, on accueille déjà des artistes qui abordent au travers d'un travail textile, qui abordent différentes thématiques sociales, politiques, environnementales. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes engagés qui justement se servent du textile comme vecteur, comme médiateur d'un message et qui est très riche parce qu'on voit que la scène contemporaine au niveau du textile est assez riche, que ce soit dans le Nord, mais la manufacture va aussi accueillir des artistes internationaux, donc on accueille tout type, on va dire, d'artistes ici à la manufacture.
Pas très loin d'ici, il y a aussi les archives, le centre d'archives du monde du travail. Hein. Est-ce que vous avez vos propres archives ici ?
Oui, on a une base d'archives, mais qui concerne plutôt l'entreprise Creil en elle-même, parce que c'était évidemment une ancienne usine. Après, c'est vrai que nous, les archives du monde du travail sont très importants en termes de ressources, surtout pour nous en tant que guide. Notre travail passe beaucoup par la recherche, par la lecture de documents, d'archives, etc. Donc c'est un véritable centre de ressources qui est très important. On va aussi beaucoup travailler avec d'anciens ouvriers et ouvrières du textile parce que ce sont des mémoires vivantes. On ne travaille pas uniquement à partir du papier, on travaille aussi beaucoup à travers des témoignages, des vécus des anciens du textile et ça nous permet d'enrichir aussi nous notre discours ici à la manufacture. C'est-à-dire qu'à la fois on va travailler sur, comme un travail d'historien sur des archives, des documents, mais aussi on a la chance quand même d'avoir une mémoire vivante au travers de tous ces anciens du textile qui sont là pour nous partager un peu leur vécu, leurs expériences.
Donc sur Roubaix, en tant que musée, vous êtes un musée spécialisé, hein, on va dire ça. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la région ?
Alors, en ce qui concerne le textile, on est le plus important, entre guillemets, en termes de ressources. Après, il y a des petits musées dans beaucoup de localités, notamment le musée de la dentelle à Calais, qui est quand même une grosse structure. Après, il y a des petits musées dans l'Avesnois, au niveau du textile, qui ne vont pas aborder la même chose parce qu'on n'est pas sur des échelles industrielles. La particularité ici du musée, c'est qu'on va vraiment s'appuyer davantage sur l'histoire industrielle parce que c'est vraiment à ce moment-là que Roubaix a pris un petit peu son importance et sa renommée. Donc c'est vrai que là où la manufacture a une particularité, c'est qu'on présente vraiment des métiers de type industriel et aussi moderne. Parce que c'est ça l'avantage ici, c'est qu'on a pu conserver la totalité des machines qui a été laissée par l'entreprise. Et c'est finalement assez rare de pouvoir avoir ce genre de matériel, parce qu'il faut bien se dire qu'au moment des délocalisations, la plupart du matériel partait à l'étranger. Donc les métiers à tisser, le matériel, les outils, etc. Donc c'est, en termes patrimonial, une véritable chance pour nous d'avoir des métiers à tisser, donc comme on le disait, qui partent du Moyen-Âge jusqu'aux années 1990, parce que ça nous permet vraiment de comprendre l'évolution en matière de technique, et aussi en matière d'évolution, des conditions de travail, etc., des ouvriers du textile.
Donc à Calais, la cité de la dentelle et de la mode a pas mal de machines intéressantes. Beaucoup venaient d'Angleterre au départ. Et ici, quelle est l'origine des machines qui sont ici ?
Alors, la plupart des machines sont fabriquées à Roubaix, parce qu'il faut savoir qu'au 19e et au début du 20e, on va dire à peu près jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, tout était vraiment fait sur place. C'est-à-dire qu'à Roubaix, il y avait des scieries, des fonderies. Donc, toutes les machines étaient faites sur place. Et alors, inspiré évidemment des modèles anglais, puisque souvent on avait des ouvriers qui se faisaient embaucher dans les usines anglaises pour revenir après en France, développer un petit peu les mêmes genres de techniques sur Roubaix notamment. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, on va dire que c'est la mondialisation qui suit un petit peu son cours. Et en fait, on va importer massivement des machines, des outils, des tissus. Par exemple, ici, nous, les trois machines les plus modernes, une lyonnaise, une allemande et une belge. Mais avant, tout était vraiment fait sur place. C'était d'ailleurs une des marques de fabrique de Roubaix. Le fait de pouvoir couvrir la totalité de la chaîne de production, c'est ce qui permettait d'avoir déjà de contrôler un maximum la production et surtout d'enrichir un maximum aussi les industriels. Parce que c'est vraiment quand on concentre toute l'activité que là, on peut engendrer beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est aussi ce qui peut courir à sa perte. C'est-à-dire que quand on met tous ses œufs dans un même panier, ça peut aussi amener à des dégâts, malheureusement.
Donc vous avez parlé de délocalisation tout à l'heure. Est-ce que la Belgique, par exemple, a connu les mêmes problèmes ? Est-ce que les délocalisations se sont faites en même temps ?
Oui, alors on va se rendre compte que, en fait, l'origine, alors c'est pas la seule, hein, mais une des origines importantes des délocalisations, c'est les crises pétrolières qu'on va connaître dans les années 70. Et on va dire que toutes les industries, quelles qu'elles soient, l'industrie minière, l'industrie du textile ou autre, qu'on retrouvait également très fortement en Belgique, va subir de plein fouet les dégâts, enfin les dommages collatéraux, c'est-à-dire augmentation des prix, du transport, des marchandises, et donc une baisse de la capacité aussi à produire. Donc les usines vont fermer ou alors être délocalisées. On a deux schémas. Et pour la Belgique, c'est exactement la même chose. Mais Roubaix, finalement, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres villes industrielles d'Europe et du monde entier, je dirais. C'est un exemple de tout ce qui va se passer à ce moment-là dans les années 70 et après dans les décennies qui vont suivre.
Parfois, on parle de relocalisation. Ça n'a pas trop de sens dans le textile industriel.
Disons que c'est compliqué. Alors, on remarque qu'il y a des initiatives locales. Certaines grandes marques, grands groupes qui vont réindustrialiser sur certains produits dans le Nord, notamment. Après, on a aussi des entrepreneurs indépendants ou des jeunes créateurs, créatrices d'entreprises qui vont soit ouvrir un petit atelier, soit travailler avec l'étranger, mais en développement des marques aussi un petit peu plus éthiques, on va dire. Alors, on peut pas parler de réindustrialisation massive parce qu'en termes de coûts, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On ne peut pas encore dire. Alors, à moins de pouvoir acheter un produit qui est très cher. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Un produit qui sera fait 100% en France n'aura pas le même coût. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un produit français. Ça n'existe pas. Le 100% français, ça n'existe pas. Puisque, notamment quand on parle de textile, on a beaucoup de pièces détachées. Par exemple, sur un jean, vous avez les boutons, le coton, les fermetures éclairs, etc. Aujourd'hui, en France, on a très peu d'usines qui produisent ce genre de produits. Donc forcément, les coûts sont assez énormes. Alors, on ne peut pas parler, comme vous le disiez, de réindustrialisation. Maintenant, on peut saluer les initiatives positives qui sont menées dans ce sens au niveau de la création textile. Donc soit, on l'a dit, des grandes marques qui réinstallent des petits ateliers à droite à gauche en France, soit des jeunes créateurs qui vont justement réouvrir d'anciens ateliers textiles, ça se voit, hein, pas seulement dans le Nord, mais en France de manière générale, on voit des jeunes qui rachètent des anciennes usines textiles pour faire refonctionner 2-3 métiers à tisser, ou alors on voit qu'il y a quand même certains secteurs qui sont encore en activité, sur la lingerie ou sur des modèles assez, des choses assez précises comme ça. Mais c'est bien de mettre en avant justement ces marques-là, ces entreprises-là, parce que c'est ça qui participe aussi à faire rayonner le savoir-faire. Parce qu'on est sur un savoir-faire qui est quand même assez ancien et qui ne demande qu'à renaître, qu'à se développer. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait un marché. C'est ça, c'est que si on n'a personne pour acheter derrière, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'il y ait un changement aussi dans les méthodes de consommation.
Donc un marché de niche, certains essayent cette expérience, par exemple à l'usine Tissel, à Roubaix aussi.
Oui, alors justement, c'est comme on le disait, c'est des produits de niche. Alors, c'est pas des produits grand public avec des prix forcément abordables. Maintenant, c'est intéressant de se renseigner aussi en tant que consommateur sur la manière dont sont fabriqués nos produits et notamment le textile et voir s'il y a des alternatives. Alors, on sait qu'il y aura toujours un sacrifice en termes de coûts. Ça peut être aussi en termes de quantité parce que effectivement, si on peut décider de mettre plus cher dans un produit, on doit forcément décider d'en acheter moins. Enfin, c'est vraiment une refonte de notre manière de consommer qui est à faire et notamment dans le textile. Et c'est justement là où ces entreprises-là, elles ont un rôle à jouer. Mais il faut, comme vous le dites, qu'il y ait un marché. Je veux dire, une entreprise n'existe que si derrière, il y a des gens qui achètent les produits. Sinon, elle n'a pas de sens.
Souvent, le marché, il est un peu épaulé par la mode aussi, puis les courants écologie, développement durable.
Oui, tout à fait. On remarque que les nouvelles entreprises qui se créent autour du textile sont beaucoup plus tournées vers ces enjeux-là. Puisque, d'une part, ça va être une donnée incontournable, et on a aussi une partie des consommateurs qui sont beaucoup plus regardants sur ces aspects-là. Des consommateurs beaucoup plus qui veulent des produits qui sont fabriqués dans de meilleures conditions, avec des produits plus durables, qui sont attachés à ce que les travailleurs qui aient fabriqué les produits les fait dans de meilleures conditions, avec des meilleurs salaires. Donc, c'est les nouvelles entreprises ont tout intérêt, que ce soit d'un point de vue éthique ou même entrepreneurial, de prendre en compte ces enjeux-là. Parce qu'on est vers un... En tout cas, on doit tendre vers un changement dans les manières de consommer le textile. Sinon, on va dans le mur.
Si on prend le bassin minier, par exemple, hein, qui a été une grande région industrielle, forcément, avec l'énergie du charbon, etc., hein, et grosses entreprises à tous les niveaux, oui. Il y a eu une grande modification de cet espace et peut-être des entreprises qui sont créées. Ce n'est pas encore évident d'avoir le même niveau économique qu'avant en termes de production, bien sûr. Hein. Il y a, pour le coup, une protection d'une partie du bassin minier reconnue UNESCO. Est-ce que vous aurez ce label un jour ? Est-ce que ça existe déjà un peu ?
Alors, l'usine est classée en monument historique. Maintenant, on n'a pas encore de classification au niveau de l'UNESCO. Je ne pense pas que pour l'instant, ce soit dans les tuyaux, on va dire, parce que déjà, rien que la municipalisation, c'est un gros dossier. Après, effectivement, il faut voir dans les années qui viennent quelle trajectoire la ville de Roubaix veut faire prendre à cette histoire. Parce que, effectivement, le fait de regrouper un peu tous les lieux patrimoniaux importants de la ville va aussi redéfinir un peu, justement, la trajectoire sur ce que veut faire rayonner Roubaix en termes d'image, en termes aussi d'ouverture au national, à l'international. Et alors, elle ne peut pas faire sans cette histoire, puisque Roubaix ne s'est construit que par et pour le textile. Donc on ne peut pas ignorer cette partie-là quand on veut travailler sur des politiques de développement de la ville. Donc ils ont tout intérêt à prendre ça en compte. Maintenant, effectivement, faire reconnaître l'histoire de Roubaix ou les usines au niveau international par l'UNESCO, ce sera un long chemin, mais ça serait aussi très intéressant, puisque en termes de textile, qui est une activité qui est encore très dynamique en France, Roubaix avait son importance et a permis aussi à la France de rayonner sur ce niveau-là. On voit, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de marques françaises de luxe qui ont aussi, à un moment donné, fait produire leurs produits sur Roubaix. Donc, Roubaix et ses ouvriers ont participé à l'image actuelle aussi de la France en termes de textile. Donc ça, il ne faut pas l'oublier.
Et puis, il y a ces bâtiments hein, qui ont été bien préservés, rénovés. Donc, ils n'attendent que le visiteur, parfois.
Oui, alors on attend effectivement les visiteurs sur des lieux, les lieux culturels. Enfin, on voit que de plus en plus, hein, on a des gens qui viennent un petit peu partout. C'est vrai que parfois, on est même étonné. On a des gens qui viennent de toute la France et parfois même du monde entier, qui n'ont pas forcément entendu parler de Roubaix au début, mais petit à petit, avec la piscine, il faut le dire, qui attire beaucoup de monde. Ça leur permet de découvrir d'autres aspects de la ville de Roubaix et souvent, ils sont assez surpris. Parce que malheureusement, Roubaix ne bénéficie pas toujours d'une image très positive dans les médias. Alors qu'effectivement, il faut aller voir au-delà de ce qu'on peut entendre dans les grands médias. Et qu'à Roubaix, il y a aussi des initiatives positives qui sont menées, qui sont formidables. Il y a un maillage associatif culturel qui est très important. On le voit hein, notamment au travers des lieux culturels, mais aussi tout ce qui tourne autour du street art, qui est une thématique qui est très importante sur Roubaix depuis une vingtaine d'années maintenant, et sur laquelle effectivement la ville a aussi décidé de miser. Parce qu'on a bien compris que la culture, de manière générale, et encore plus ici à Roubaix, c'était vraiment un vecteur non seulement pour attirer les visiteurs étrangers, mais aussi pour bénéficier aux populations locales. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, on a aussi un besoin sur la ville de Roubaix en termes de développement culturel, développement économique. Et l'accueil de visiteurs étrangers est aussi un vecteur de développement. Donc, tout ça mis en imbrication, il y a des choses à faire. la marge de progression est énorme, mais c'est assez enthousiasmant.
Voilà, donc ce musée va rouvrir prochainement. Il y aura des expositions de travaux d'artistes. Et puis, il y aura toutes ces machines qui sont là. On peut en compter combien à peu près ?
Alors ici, on a donc trois métiers anciens, on va dire, en bois, qui datent donc du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe. Et ensuite, on a six métiers de type industriel, donc début du XXe jusqu'aux années 1990, qui fonctionnent. Alors, ça dépend des moments, parce qu'on est quand même sur des machines qui peuvent être plutôt anciennes, donc qui sont assez capricieuses. Mais on a la chance ici d'avoir avec nous donc trois anciens tisserands et ma collègue régisseuse qui sont là pour justement entretenir les machines de manière à ce qu'on puisse les mettre en route, en fonctionnement. Et c'est vraiment aussi à travers ça qu'on arrive à faire comprendre aux visiteurs les conditions de travail des ouvriers du tissage. Parce que ça nous plonge un peu justement dans l'ambiance de l'époque et ça nous permet de comprendre un peu mieux justement les conditions de travail, les enjeux, etc. de ces métiers-là.
Alors c'est vrai que quand on pense aux filatures d'il y a 70 ans, il y avait beaucoup de gens qui venaient de partout, hein, de la région, en bus, le matin à 5h départ et retour le soir 20h ou quelque chose comme ça. Donc c'était une industrie qui a drainé beaucoup la population ouvrière.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait environ 450 entreprises du textile donc sur Roubaix. C'est pour ça que Roubaix était la plus importante en termes de nombre d'entreprises. Et comme vous le dites, il n'y avait pas seulement que des gens de Roubaix qui venaient travailler ici. Il y avait notamment toutes les jeunes filles du bassin minier, parce que c'est vrai qu'à la mine, il y avait très peu d'emplois pour les femmes à part au jour. Donc il y avait beaucoup de jeunes filles qui venaient en bus du bassin minier pour venir travailler dans les filatures de Roubaix. On a également beaucoup de gens qui sont venus donc, en fonction des époques de l'étranger. Hein, donc dès le 19e siècle, énormément d'ouvriers belges qui sont venus travailler de ce côté de la frontière, et dès la fin de la Première Guerre mondiale, avec effectivement les ouvriers polonais, espagnols, portugais, italiens, marocains, algériens, tunisiens, qui sont venus travailler pour renforcer les rangs à différents moments de l'histoire textile. Donc effectivement, ce n'est pas qu'une histoire roubaisienne, les entreprises de Roubaix ont fait travailler énormément de monde. C'est pour ça que quand les usines ont fermé, évidemment, économiquement, socialement, ça a été catastrophique, non seulement pour les Roubaisiens, mais pour toute la région de manière globale.
Voilà, c'est aussi une explication du côté cosmopolitain de la ville de Roubaix.
Ah oui, notre démographie actuelle, c'est le fruit de cette histoire industrielle. Si la France, de manière générale, est un grand pays, un pays riche, c'est aussi grâce aux différentes vagues d'immigration qu'on a connues et à tous ces gens qui ont quitté leur pays pour venir travailler ici dans le textile, ailleurs dans le bassin minier, dans la métallurgie, etc. Effectivement, la population du Nord-Pas-de-Calais, elle est aujourd'hui ce qu'elle est parce qu'on était une région industrielle. Et en France, de manière générale, c'est la même chose. En Europe, c'est la même chose pour toutes les grandes villes industrielles.
Voilà, alors dans la région, il y a le projet REF3, que vous connaissez sans doute, qui aide aux restructurations des bassins d'emploi, d'industrie, etc., vers tout ce qui est écologique, tout ce qui est autour de ce qui est plus vertueux que l'industrie de l'époque.
Mmh. Oui, alors à Roubaix, de manière générale, effectivement, il y a beaucoup de politiques autour de la réhabilitation urbaine. Après, précisément, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est parce que ce n'est pas non plus les thématiques sur lesquelles je travaille beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça aussi qui est assez motivant, c'est-à-dire que la marge, comme vous le dites, de progression est énorme, donc il y a beaucoup de choses à faire à Roubaix, et malheureusement, dans certains quartiers, effectivement, qui sont un peu délaissés, ça mérite d'être mis plus en avant sur ces thématiques-là.
Et peut-être que pour les scolaires, ça a aussi tout un intérêt de comprendre l'histoire de la ville et aussi peut-être se projeter un peu.
Oui, nous, on reçoit beaucoup de scolaires, que ce soit de Roubaix ou même d'ailleurs dans la région. On est un petit peu justement emblématique de comment on était une région industrielle avec justement l'histoire des mines, l'histoire du textile. C'est vraiment l'ADN de la région. Et notamment pour les petits du coin, notamment les Roubaisiens, il n'est pas rare que certains soient les descendants d'ouvriers du textile. Et notamment ici à Roubaix, Dans une classe, il y a forcément beaucoup de petits qui ont eu un grand-père, une grand-mère, un grand-oncle qui ont travaillé dans le textile. Donc ça permet aussi de se projeter, enfin justement de retourner un petit peu en arrière et de prendre conscience aussi de l'identité d'une ville et d'avoir envie justement d'en prendre soin, de la faire connaître, de la faire bouger. Et je pense que c'est quand on comprend mieux l'identité d'un lieu qu'on a envie de s'y investir et de travailler dessus. Donc c'est important aussi qu'on soit là pour montrer aux jeunes générations de quoi était fait leur territoire avant eux.